Bonjour, au micro Idrissa Sidoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Au Mali, la médiation ouest-africaine venue chercher à Bamako une solution à la crise sociopolitique n'a pas convaincu le mouvement de contestation. Nous y reviendrons plus en détail avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré. En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Seydou Diarra est décédé hier à Abidjan à 87 ans, a annoncé la RTI. Il fut le chef du gouvernement sous la transition militaire dirigée par le général Robert Guéï après le coup d'État de Noël 1999 jusqu'à octobre 2000. Puis, il redevint Premier ministre de février 2003 à décembre 2005 dans le gouvernement d'Union nationale mis en place après l'accord de Linas Marcoussi censé mettre un terme à la crise ivoirienne. Au Nigeria, au moins 23 soldats ont été tués dans l'état de Katsina dans une attaque armée attribuée à des bandits qui sèment la terreur dans cette région de plus en plus volatile, ont rapporté hier des sources sécuritaires. Ces groupes armés commettent vol de bétail ou kidnapping contre rançon et agissent a priori sans motivation idéologique, mais des experts mettent en garde contre un rapprochement avec des groupes djihadistes de la région. En République démocratique du Congo, des manifestants ont marché hier à Kinshasa pour la troisième fois en 10 jours contre le choix d'un nouveau président à la tête de la commission électorale indépendante, un cadre de l'équipe sortante Ronsard Malonda. Selon l'AFP, interdite par les autorités comme les deux autres, cette marche s'est cette fois-ci déroulée sans incident. Les forces de sécurité ont encadré les quelques centaines de militants qui avaient répondu à l'appel du comité laïque de coordination, un collectif catholique. De l'autre côté du fleuve, à Brazzaville, l'AFP a appris hier de sources judiciaires que la justice congolaise a condamné samedi l'ancien maire de la capitale, Christian Roger Okemba, 60 ans, à 5 ans de réclusion criminelle pour détournement de deniers publics. Et son épouse, Anastasie Eleonore Okemba, est condamnée à 3 ans d'emprisonnement avec sursis. Tous deux doivent en outre payer à la mairie de Brazzaville une amende de 200 millions de francs CFA. La défense a indiqué qu'elle allait introduire un pourvoi en cassation. L'Afrique du Sud, pays le plus touché par la pandémie sur le continent, la pandémie de coronavirus, a passé la barre des 5000 morts après avoir enregistré en l'espace de 24 heures 85 nouveaux décès. Selon des chiffres officiels publiés hier, un total de 13 449 nouveaux cas d'infection ont aussi été officiellement diagnostiqués en un jour, portant le nombre total de cas à 364 328. Les autorités sud-africaines ont à nouveau appelé au respect des gestes barrières. Et au Zimbabwe, plus de 100 000 personnes ont été arrêtées pour infraction aux mesures de confinement en place depuis fin mars et depuis assouplies. La police se dit perturbée par le nombre de personnes qui sont arrêtées pour non-port du masque, déplacement non essentiel et rassemblement interdit, a expliqué son porte-parole. Le Zimbabwe a enregistré 1 478 cas. Dont 25 morts. Les États-Unis ont, eux, enregistré 63 872 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, selon l'université américaine Johns Hopkins hier, ce qui porte à 3 762 081 le nombre total des cas de COVID-19 dans ce pays le plus touché par la maladie. Au cours des dernières 24 heures, 514 décès ont été enregistrés pour un total de 140 474. Les États-Unis ont eu plus de 60 000 cas chaque jour au cours des 6 derniers jours, avec un maximum de 77 638 cas vendredi. plein sud de nos informations, au Mali, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, rejette les recommandations de sortie de crise proposées par la médiation ouest-africaine. Elle prévoit le maintien au pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta, dont le M5-RFP continue de réclamer la démission, un gouvernement d'union nationale ainsi que le remembrement de la Cour constitutionnelle. De Bamako, correspondance de Kassim Traoré.
Menée par l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan, l'équipe de médiation de la CEDEAO a rendu public hier son communiqué final de médiation. Jean-Claude Kassibrou, président de la commission de la CEDEAO.
Nous avons proposé un gouvernement d'union nationale qui englobe l'ensemble des composants. Dieu merci, le président de la République a accédé à cela. Donc il faut que le gouvernement élargi avec l'ensemble des composants puisse régler ces problèmes.
La CEDEAO recommande le remembrement de la Cour constitutionnelle qui doit statuer sur la réintégration à l'Assemblée nationale des 31 députés récalés.
Et quand il y a mort d'homme, vous savez, ça devient compliqué. C'est ce que nous avons dit. Il faut que les enquêtes soient menées jusqu'au bout pour qu'on situe les responsabilités. Comment se fait-il que dans le métier de l'ordre, il y a eu des usages de balles réelles qui ont entraîné ces morts?
Choguel Kokala Maïga, porte-parole du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5-RFP.
Nous sommes au regret de constater que les propositions qui nous ont été faites ne rencontrent pas les attentes du M5-RFP, ne rencontrent pas du tout les attentes de l'équipe. L'écrasante majorité des Maliens. Ces propositions ont réduit tout notre combat à des questions électorales.
La CEDEAO dit qu'elle va mettre en place un comité technique pour assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les Nations Unies ont lancé hier un appel à la communauté internationale pour obtenir une aide urgente de 283 millions de dollars afin d'assister le Soudan dans sa lutte contre le coronavirus. Ses conséquences économiques menacent de famine plusieurs millions de personnes, Michel Joseph.
Le Covid-19 est arrivé au Soudan alors qu'une part croissante de la population se bat déjà pour ses besoins élémentaires et le système de santé est déjà terriblement tendu, a indiqué hier Gwee Yop Son, représentante de l'ONU au Soudan. Le prix de l'inaction est trop important. Si nous n'agissons pas maintenant, nous devons nous préparer à une série de tragédies humaines, a-t-elle ajouté. La pandémie affecte le pouvoir d'achat des familles et les restrictions aux déplacements mettent à mal leur accès à la nourriture, aux soins et aux services de base. Le taux d'inflation annuel du Soudan a atteint 114% en mai, aggravant les difficultés économiques déjà existantes. Selon OCHA, plus de 9,6 millions de personnes font face à une famine grave, le chiffre le plus important jamais enregistré au Soudan. Des familles soudanaises ont commencé début juillet à recevoir des aides financières de l'État qui devraient concerner à terme 80% des 42 millions d'habitants du pays, selon le ministère des Finances. Le nouveau coronavirus a contaminé plus de 10 000 personnes dans le pays, dont plus de 650 ont succombé. Les mesures de confinement ont été allégées le 8 juillet.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a de nouveau rejeté comme fake un dernier sondage le montrant en difficulté croissante face à son rival démocrate Joe Biden, et ce dans une interview diffusée hier sur la chaîne Fox News. Eric Manirakidza.
Dans ce même entretien, le président Trump a refusé de dire qu'il accepterait les résultats sortis des urnes, répétant son inquiétude sur d'éventuelles fraudes favorisées selon lui par le vote par correspondance. D'abord et avant tout, je ne suis pas en train de perdre, car ce sont des sondages bidons, a assuré M. Trump, interrogé par le journaliste Chris Wallace sur une enquête d'opinion montrant à M. Biden le devançant de 8 points à 49% contre 41%. Il a également refusé d'apporter tout crédit à une conclusion du sondage de Fox News, montrant que les électeurs le considéraient moins compétent que M. Biden. Un autre sondage publié dimanche et réalisé par la chaîne ABC et le journal Washington Post montre une avance de Joe Biden sur Donald Trump encore plus nette dans les intentions de vote à 55% contre 40%. Un autre sondage publié hier dimanche et réalisé par la chaîne ABC et le journal Washington Post montre une avance de Joe Biden sur Donald Trump encore plus nette dans les intentions de vote à 55% contre 40%. Monsieur Trump continue de payer cher sa gestion jugée mauvaise de la crise du Covid-19 aux États-Unis, avec un taux d'approbation de sa politique générale chutant à 39%, 50% la réprouvant.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
En Côte d'Ivoire, les travaux de terrassement sur le site de reconstruction du grand marché de Boaké débutent ce lundi. Le maire de la ville, Nicolas Djibo, a appelé la population à rester à l'écart des zones balisées. Financé à hauteur de 30 milliards de francs CFA, le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest aura une capacité d'accueil de 10 000 commerçants sur 9 hectares de superficie. La compagnie des bauxites de Guinée a lancé une nouvelle campagne de reboisement de 200 hectares à la mine de Sangaredi. Elle prévoit cette année la mise à terre de quelques 120 000 plants sur les plateaux de Bidikoune entre Sangaredi et Télimélé. Le reboisement sera effectué par des petites entreprises locales qui ont été créées avec l'appui de la CBG pour promouvoir l'entrepreneuriat et lutter contre la pauvreté. L'Union européenne a apporté un appui financier de 15 milliards de francs CFA à la Centrafrique dans le cadre du nouveau programme d'aide budgétaire, signé récemment pour un montant global de 54 millions d'euros pour 2020-2021, dont 9 millions en appui à la réforme de la justice et de la sécurité. Ce premier décaissement contribuera à faire face aux besoins liés à la crise du coronavirus.
Les sports à présent avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Cyclisme pour commencer, le Tour d'Algérie 2020 annulé.
Oui, et sans surprise, ce tour prévu du 4 au 10 juillet entre Alger et Oran a été annulé à cause de la pandémie de Covid-19, a annoncé la Fédération algérienne de cyclisme. Cette épreuve figurait au calendrier de l'UCU Africa Tour, le circuit continental en Afrique.
En football aussi, annulation au Nigeria du championnat professionnel de première division.
La fédération qui avait entretenu l'espoir de reprendre ce championnat a finalement tout arrêté, décrétant ainsi une saison blanche d'une compétition interrompue à la 25e journée. Il n'y aura ni champion, ni relégué, et encore moins de promus. Précisons qu'il a été décidé que les trois clubs en tête du classement représenteront le pays en compétition africaine. Plateau et Rivers United évoluant en Ligue des Champions et Lobista en Coupe de la Confédération.
En Europe, Élysée, le FC Başakşehir remporte le championnat de Turquie.
Exactement Idrissa, le club d'Istanbul a décroché le premier titre de champion de son histoire en venant à bout 1-0 de Kayserispor lors de la 33e journée de Super League. En tête du classement avec 69 points, Başakşehir ne peut plus être rattrapé par Trabzonspor, deuxième à 7 longueurs et battu par Konyaspor 4-3 alors qu'il ne reste plus qu'une journée à disputer.
On jouait la coupe en Angleterre, Chelsea étrit Manchester United et rejoint Arsenal. En finale.
Après la qualification d'Arsenal la veille face à Manchester City, Chelsea s'est lui aussi hissé en finale de la Coupe d'Angleterre en dominant nettement Manchester United sur la marque de 3-1. Les Gunners et les Blues vont s'affronter donc le 1er août prochain à Wembley.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, une médiation de la CDAO a séjourné à Bamako du 15 au 19 juillet à la recherche d'une solution à la crise. Elle a rencontré toutes les sensibilités sociales et politiques du pays. À la fin de cette mission, on constate un échec car le mouvement M5-RFP n'est pas d'accord avec les propositions de sortie de crise de la CDAO. Plusieurs organisations de la société civile trouvent que la solution à la crise actuelle réside dans un dialogue franc intermalien. De Bamako, une correspondance de Kassim Traoré.
À l'échec de la médiation ouest-africaine menée par la CDAO, certaines organisations de la société civile souhaitent un dialogue franc intermalien. Drissa Traoré, président de la coalition de l'observation citoyenne des élections au Mali.
D'engager un dialogue franc pour trouver des solutions politiques à des questions qui, effectivement, n'ont pas souvent leur réponse dans le cadre légal. C'est-à-dire qu'à certains égards, nous avons effectivement remarqué que nos textes sont limités pour apporter toutes les solutions à certains problèmes. Donc à ce niveau, seul le dialogue franc et ouvert entre toutes les parties peut permettre effectivement d'aboutir à quelque chose de constructif.
Il faut sortir de la constitution actuelle du Mali pour avoir une solution à la crise actuelle. C'est ce que préconise le Dr Ibrahima Sango du POSIM.
Le Haut Conseil des collectivités territoriales qui est une institution de la République, c'est évident que depuis 2012, ce Haut Conseil des collectivités territoriales n'est plus légitime à la République du Mali. Et dans la constitution, on dit qu'elle ne peut pas être dissoute, mais c'est une institution qui est illégitime depuis 2012. Faire un report des élections législatives en 2018 et en 2019 ne sont pas conformes à l'esprit de la Constitution et de la loi qui existe en République du Mali. Donc pour nous, la sortie de crise actuellement en République du Mali nécessite qu'on sorte de la Constitution. On ne peut pas gérer le problème entièrement par les dispositions légales.
Malgré le refus du M5-RFP d'accepter ses recommandations, la CDAO ne ferme pas la porte au dialogue. Jean-Claude Kouassi Brou, président de la commission de la CDAO.
Nous espérons que nous allons arriver avec nos frères du M5-RFP à trouver les voies et moyens, les dénominateurs communs qui nous permettent ensemble de poursuivre les réformes. Ce qui est important, c'est que le Mali puisse retrouver sa stabilité, sa paix et sa marche en avant pour le progrès économique et son développement. Le pays fait face à des difficultés qui sont profondes. Vous savez qu'il y a la crise sécuritaire, vous savez qu'il y a la crise dans le nord, dans le centre du pays. À cela s'ajoute la crise sanitaire. Il y a des difficultés économiques liées au Covid.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Tchad, la Ligue tchadienne des droits de l'homme a publié ce week-end un rapport intitulé « 44 civils victimes d'exécutions sommaires et extrajudiciaires à N'Djamena ». C'est la conclusion d'une enquête sur la mort en prison à N'Djamena de 44 éléments présumés de la secte Boko Haram le 16 avril dernier. Un rapport rejeté par le gouvernement tchadien. Précision de notre correspondant sur place, André Kodmajingar.
Ce rapport d'une quarantaine de pages précise que 70 prisonniers avaient été présentés le 13 avril dernier à Bagassola dans la province du Lac comme présumés appartenant à la secte Boko Haram. Et le document de préciser que les autorités n'avaient nullement fait mention des prisonniers de guerre dans leur bilan présenté le 8 mai après l'opération en colère de Boma. Le 14 avril, les 70 prisonniers sont transférés à N'Djamena. Mais selon le mouvement, le procureur de la République ne décharge que 58. Où sont passés les 12 qui ont manqué à l'appel du procureur, s'interroge la LTD. Des jours plus tard, 44 sur les 58 périssent en prison et les autorités avaient évoqué un suicide collectif lié à la consommation des substances létales.
Le rapport que nous présentons établit formellement qu'il n'en est rien. Non seulement il ne s'agissait pas d'un suicide, mais ces personnes n'étaient nullement membres de la secte Boko Haram. Le rapport conclut à un assassinat de masse, sans écarter la qualification de crime de guerre.
Maître Max Loalngar, président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, pour lui, ces prisonniers sont morts de soif et de maltraitance.
Ils avaient soif et ils n'avaient pas d'eau. À 16h, il leur soit jeté à travers la persienne une petite bouteille d'eau. À 18h, une fumée noire apparaîtra dans la cellule. Les uns toussaient, les autres criaient. Les survivants que nous avons rencontrés nous ont dit que à minuit, leurs 44 amis avaient cessé de vivre.
Pour Dine Arabi, ministre de la Justice, si le gouvernement avait une mauvaise intention, ces présumés terroristes allaient être exécutés sur le terrain, loin des témoins. Il indique que le gouvernement attend la conclusion de l'enquête de la Commission nationale des droits de l'homme pour se prononcer.
Ces affirmations ne peuvent engager que la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Nous, au niveau du gouvernement, je ne pense pas qu'on puisse répondre à ces genres de mensonges. Parce que ces gens-là, ils ont été arrêtés sur le terrain. Ils ont été confiés à la justice comme étant des membres actifs de Boko Haram pour être jugés du fait du terrorisme.
Les parents des victimes clament l'innocence des 44 prisonniers morts en prison et les 12 personnes portées disparues. Ils exigent que justice soit rendue ainsi que la libération des 14 rescapés déportés à Korotoro.
Nos enfants sont allés au marché dans un village voisin pour vendre leur bétail et acheter d'autres marchandises. Et c'est au retour que les militaires en poste de contrôle de Ngomboa les ont arrêtés et les ont présentés comme étant prisonniers de guerre. Alors que l'endroit où se situe le marché est très loin de la zone de guerre. S'ils appartenaient réellement à la secte Boko Haram, nous ne viendrons pas ici parler à visage découvert.
Tout en exigeant que les 14 rescapés déportés à la prison de haute sécurité de Korotoro soient ramenés en Djamena pour la manifestation de la vérité, la Ligue tchadienne des droits de l'homme plaide pour qu'une enquête internationale soit diligentée sur cette affaire. André Kodumadjingar Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Bénin, comme il fallait s'y attendre, l'interdiction des journaux en ligne n'est pas du goût des promoteurs de ces médias qui appellent l'autorité de régulation à revoir sa décision qui est, selon eux, une autre forme de musellement de la presse. De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur à Dandé.
La dernière décision de l'ARAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, ordonnant la cessation de publication des médias en ligne, fait polémique dans le rang des professionnels des médias au Bénin. L'ARAC insiste sur le fait que cette décision vise à réguler un secteur qui semble échapper à tout contrôle. Bastien Salami est un conseiller à l'ARAC. Il appelle les promoteurs de médias en ligne à se mettre en règle.
Cette décision a été prise donc dans l'intérêt de la corporation. On ne peut pas vivre, vous le savez bien, en marge de la loi et espérer la protection de la loi. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ARAC est une institution qui est chargée de veiller au respect en toute indépendance et impartialité, le respect scrupuleux de la loi.
Dans le rang des patrons des médias en ligne, les avis sont partagés. Christophe Djossou est le promoteur de Kingo TV. Il trouve que la décision intervient au moment opportun, mais pense que l'ARAC aurait pu faire en sorte de ne pas pénaliser tout le monde.
Cela va permettre à ce que le secteur soit assaini. C'est une décision qui, quoi qu'on dise, affecte un peu tous ces organes qui sont régulièrement installés et qui travaillent quand même pour fournir de l'information et du contenu.
D'autres pensent que cette décision de l'ARAC est illégale et compromet l'avenir de centaines de personnes. Helmut Komlanvi est le directeur général de HC Media. Il pense que l'autorité de régulation aurait pu procéder autrement.
Nous ne sommes pas une structure illégale. Nous sommes une société à responsabilité limitée, bien installée au Bénin, avec un capital bien constitué de 14 110 000 francs CFA. Nous avons du personnel de qualité régulièrement déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale.
Certains patrons de presse, comme Joseph Perzoanago, directeur de publication du journal La Dépêche Info, pensent que l'ARAC est comptable de la situation actuelle.
Ça fait 2 ans au moins pour ceux qui ont déposé de la documentation. Et rien n'a été fait. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas composer avec l'Internet. On ne refuse pas l'ARAC de réguler, mais que tout au moins ça se fasse dans les règles de l'art et que l'ARAC puisse ne plus faire du chantage. Ça, là, ressemble à du chantage, vous ne voyez pas.
Les associations fêtières se désolent de la situation et invitent l'ARAC à revoir sa copie pour ne pas sombrer dans une violation flagrante de la liberté de la presse. Zakiat Latoudi est la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin.
Le PMB invite aujourd'hui l'ARAC à réguler et non à interdire les licences d'organes en ligne. En arriver à interdire les licences de ces médias en ligne-là serait une violation de la liberté d'expression et de presse consacrée par la Constitution.
Les promoteurs de Web TV, d'OMU, se sont tournés vers l'autorité de tutelle, le ministre de la Communication. Après un tête-à-tête avec Alain Orunla, le président du réseau des patrons de Web TV livre ici ses impressions. Shamsin Badaou.
Le ministre est ouvert. On a compris que le ministre taille d'importance à ce nouveau média. Il a à cœur le nouveau média et il a rassuré les membres du repas Web TV. L'importance de ces nouveaux médias n'est plus à démontrer aujourd'hui. Donc il a promis faire de son mieux pour que la situation soit décantée dans un bref délai.
Les professionnels des médias en ligne attendent de la HAC moins de sévérité dans la gestion de ce dossier pour que des centaines de personnes ne se retrouvent pas au chômage du jour au lendemain. De Cotonou, Jeannette Fleur Adani pour VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Au Congo-Brazzaville, la classe politique a commencé, par déclaration ou médias interposés, à discuter des conditions d'une bonne élection en mars 2021. L'opposition réclame un dialogue et la non-candidature du président Denis Sassou Nguesso, une idée rejetée par la majorité au pouvoir qui a déjà choisi son candidat. La société civile, quant à elle, appelle à de profondes réformes du système électoral. Reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
L'élection présidentielle aura-t-elle lieu à la fin du premier trimestre 2021? La question fait débat et s'amplifie dans les états-majors politiques. À l'opposition, les voix divergent. Pour Paulin Makaya, président de UNU pour le Congo, il faut un dialogue inclusif.
Nous ne sommes pas d'accord. Nous demandons au président Sassou de donner aux Congolais le véritable dialogue. Nous avons des préalables. On ne peut pas aller à un dialogue si Moukoko n'est pas participant, si Okombi n'est pas participant. Ça, c'est clair.
Vous n'obtenez pas ça autour du dialogue.
Non, parce que nous nous connaissons. Et c'est des spécialistes du saupoudrage politique.
Du côté du chef de file de l'opposition, il serait mieux de donner quelques années de transition au président Denis Sassou Nguesso, le temps de bien préparer cette élection à laquelle le président sortant ne sera pas candidat. Pascal Satima Diala.
Le problème, c'est quand j'écoute les gens dire Satima Diala demande le report de l'élection. Non, c'est une conséquence cela, d'organiser une élection qui ne soit pas contestée. Nous sommes à 7 mois, pour dire la vérité. L'alternance est bloquée. Tant que le président Sassou est candidat, il n'y aura pas d'alternance. Ça, je vous le dis clairement, il est bloqué. Mais parce que tout est conçu pour que, aux élections, le président Sassou soit élu.
Mais pour la majorité présidentielle, la constitution doit être respectée. La tenue du scrutin présidentiel aura lieu à date échue. Selon Pierre Moussa, le secrétaire général du Parti congolais du travail, la proposition de Satima Diala ne passe pas.
Je respecte son idée, mais je ne la partage pas du tout. Parce que il faut suivre la constitution. Est-ce qu'il appartient à un individu de dire celui-là, je ne veux pas de lui, je vais le pousser vers la porte, mais il faut qu'il s'organise dans un cadre démocratique et conforme à la Constitution.
Gardant ses distances dans ce débat, la société civile plaide pour une élection crédible et incontestable. Trésor Dilakende est le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
La Constitution du 20 janvier 2002 a été changée pour un seul but. Celui de permettre au président Sassou de conserver son fauteuil le plus longtemps possible. Il n'y a pas d'illusion à faire. Je garde ma neutralité dans ce débat politicien. Le plus important, c'est de réunir les conditions pour une élection apaisée et transparente. Pour cela, il faut qu'il y ait des vraies réformes. l'opposition politique ainsi que d'autres acteurs de la société doivent se battre pour cela.
Plusieurs défis restent à relever pour arriver à cette élection, à savoir la pandémie de Covid-19, la crise financière et le dialogue politique. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.